Ce podcast de Comic City est sponsorisé par Pulps Bordeaux, votre choix de comics, statuettes, toys et produits dérivés en Gironde. Ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h et le lundi de 13h à 19h, toute l'équipe vous attend 56 rue du Loup ou sur la page Facebook du magasin. Pulps Bordeaux, le comic shop qu'il vous faut. Bonjour à tous et bienvenue sur le 224e Comics Weekly. Nous sommes le jeudi 4 décembre 2014 et au programme de ce soir, les sorties de la semaine Marvel, DC et Indé, en tout cas une sélection faite par nos goûts et surtout par le peu de temps que l'on a pour les lire, c'est surtout ça qui compte. On aura chez Marvel la nouvelle sortie de la semaine Angela Asgard Assassin, qui est une nouvelle série. Nous aurons aussi le Thanos vs Hulk, la mini, ainsi que du Hulk. La partie indé reviendra sur le renouveau du mythe du loup-garou avec Wolf Moon par Cullen Bunn. Nous aurons aussi la suite de Birthright, de Dark Gods ou encore de Men of Wrath. Et enfin, chez DC, nous parlerons d'une autre nouvelle sortie de cette semaine, il s'agit de Secret Six et de Batman Eternal. Et comme d'habitude, à chaque fin de section, nous parlerons aussi des TPB sortis cette semaine afin de vous donner des pistes d'achat ou de cadeaux de Noël éventuels. Je suis Steve et vous écoutez le Comics Weekly. Et avec moi ce soir, pour vous présenter toutes ces nouveautés, Bruno.
Oui, bonsoir à toutes et à tous.
Qui apparemment a une connexion stable ce soir.
Oui, normalement, si tout va bien.
Là, deux secondes après, déco. Et Mister René Benny.
Oui, bonsoir Crotocu.
Et il fallait être là avant que l'enregistrement soit lancé pour comprendre.
Ouais, ça c'est voilà, de la ce soir, private joke,
c'est Crotocu.
Crotocu, voilà.
Eh bien, nous allons démarrer le programme avec du caca. Il s'agit de Angela Asgard Assassin numéro 1. Du caca. Nous verrons ça. Ouais. Bruno, tu vas nous résumer ce Angela, nouvelle série ouais.
Donc
de
c'est
chez Marvel.
Angela, et c'est écrit par Sayan Supakru. Avec.
Oh là là. Je me disais non, il va quand même pas la faire cette blague.
Non, c'est écrit par Kieron Gillen et Marguerite Bennett.
Bah justement, au niveau de la qualité des textes, c'est la même chose, non?
Avec au dessin, nous avons pour la partie principale Phil Remenes. Donc la partie principale est écrite par Kieron Gillen et la partie un petit peu flashback écrite par Marguerite Bennett et Kieron Gillen avec des dessins de Stéphanie Hans. Donc Angela, donc ce fameux personnage qui vient du 10e royaume, dont on a appris récemment qu'elle avait un lien de parenté avec Thor et Loki, a été justement bannie
Le 10e royaume sur la droite, hein, soit précis. Quand
même. Oui, c'est ça. Elle a été bannie de Heaven. Et donc là, elle erre quelque part. Là, elle est dans un désert. On ne sait pas ce qu'elle fait. Elle porte une sorte de quelque chose dans ses bras. Et elle recherche en fait une amie à elle qui est dans les limbes. Parce qu'elle erre dans les limbes, en fait. Et ça va être l'occasion de découvrir un petit peu le côté badass du personnage d'Angela.
Ce qu'on peut se rendre compte déjà, c'est que Limbo, la dimension Limbo a sacrément bien changé, hein. Parce qu'on on a l'habitude de la voir avec Ilyana, Rasputin,
ouais.
Magic.
Oui,
c'est pas du tout la même chose là.
Ça a rien à voir.
La
ouais.
dimension Limbo, mais pas la dimension Bimbo.
Mais ça dépend. Je pense que la dimension Limbo dépend de à quelle hauteur tu te baisses.
Oui.
Ouais. Et puis voilà. La dimension Dumbo, en fonction de si l'histoire est stupide ou pas. Et ça, Bruno va nous le dire très vite.
Alors l'histoire, je l'ai pas trouvée stupide. Je l'ai trouvée un petit peu pompeuse, mais pas stupide. Déjà la partie graphique, ce que fait Jimenez.
Mais ça, c'est à cause
magnifique.
Des lèvres.
C'est magnifique. On a une Angela qui est vraiment ultra badass. Les scènes de combat sont rythmées, c'est violent.
Elle est autant Angela que les monstres. Enfin, j'avais l'impression de lire l'univers Spawn, quoi, vraiment.
En termes
d'armure, de design, etc. Mais c'est très propre.
Parce qu'elle est normal. C'est normal que ce soit pompeux. En plus, il y avait Pip le troll, je crois, dedans.
Non, c'est pas dans celui-là. Mais donc en fait, elle est poursuivie également par des sortes de morts-vivants qui veulent la tuer. On ne sait pas trop pourquoi. C'est l'occasion de découvrir justement une de ses amies qui s'appelle
Sera.
Qui va nous expliquer un petit peu comment elle est devenue la meilleure amie d'Angela, justement pendant un flashback qui est dessiné par Stéphanie Hans, un flashback assez sympa.
Je dirais meilleure amie / esclave / sidekick / palefrenier ouais. / je te dois la vie et donc s'il c'est te ça. Plaît je suis ta copine quoi.
C'est ça parce qu'on va
je sert à rien.
Oh si si, oh, peut-être. Oh, sert
ouais,
à rien.
Si, si, non mais ouais, je mais si si ouais, non mais je suis d'accord.
Jeune mot. C'est pas mal. Mais on va découvrir effectivement que les anges, ils ont un système un petit peu de dette qui est assez important puisque quand c'est... ils font quelque chose, ils doivent toujours demander une rétribution en retour.
C'était déjà un petit peu abordé ce truc-là dans justement la mini-série Original Sin, Loki et Thor, etc. Okay. Que je n'ai pas fini. Alors je me demande si c'est pas pour ça que ça m'a pas perturbé un peu dans cette histoire, mais j'y reviendrai après.
Moi non plus, et effectivement, ça m'a laissé un petit peu dubitatif quant à la dernière page. Je me suis dit, peut-être que j'ai manqué quelque chose dans la mini-série Original Sin.
Et même le résumé ne suffisait pas à tout comprendre, hein, honnêtement.
Ouais, c'est ça. Mais malgré tout, j'ai quand même passé un bon moment. Il y a le côté heroic fantasy qui est assez sympa. Il y a un petit peu la mythologie avec Asgard qui continue, qui se poursuit du coup. Même si effectivement il me manque peut-être quelques clés pour apprécier la fin de ce numéro.
La clé du 10e royaume, non ?
Oui, c'est ça, tout à fait. Mais donc je sais pas, je suis un peu mitigé. C'est pas ma lecture de la semaine, mais je trouve que c'est quand même du bon boulot, que ce soit graphique ou même au niveau du scénar. Ça fait quand même ça a l'air assez, il y a une grande ampleur. Mais par contre, ça me laisse un peu sur ma faim.
Je vais juste te donner mon avis, puis je te laisserai parler ensuite, Benny. Franchement, non moi j'ai trouvé ça relativement mauvais, en fait. On ne comprend rien. On n'a aucune idée des enjeux, même à la fin de ce premier épisode. C'est pas très bien raconté. Alors, j'avais pas fait gaffe qu'il y avait Marguerite Bennett dessus. Je l'ai
ça
compris à la fin.
Cela.
Et je me suis dit, ah bah oui, je comprends mieux. Je comprends mieux. Je retrouvais pas le Gillen qui m'avait émerveillé sur Journey into Mystery. On en est très 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 loin. Enfin, c'est hyper décousu. C'est vraiment pas abouti. Alors artistiquement, c'est abouti. Ou ça, oui, je suis d'accord. Ouais. Mais scénaristiquement, c'est franchement très nébuleux. Et j'ai trouvé ça emmerdant en fait. Je voyais pas le bout de cette lecture. Et j'ai trouvé ça très emmerdant. Franchement, on s'ennuie. Enfin, moi en tout cas, c'est mon avis. On s'ennuie. Les flashbacks n'apportent peu, voire pas d'informations très importantes. On aurait pu s'en passer. Le cliffhanger est complètement raté. La page de cliffhanger est pas du tout bonne. La page où ceux qui poursuivent Angela, qui sont enfin découverts, c'est l'avant-dernière page et c'est celle-ci qui aurait dû être le cliffhanger et pas cette espèce de pseudo-page de merde qu'on a après. Non, enfin, j'ai l'impression que c'est ni fait ni à faire, quoi. C'est en plus on tape sur Asgard assassin après le Agent of Asgard pour Loki, etc.
Asgard facho.
Non, enfin je aucun, enfin j'ai envie de dire aucun rapport quoi. Alors peut-être que ça viendra à la fin du premier arc. Faut espérer. Et vu le titre, on arrive un peu à comprendre ce qui pourrait découler de ça. Mais vraiment, je veux dire là, elle est poursuivie par des gens qui lui disent non, on peut pas te laisser faire ça. On peut pas te laisser faire quoi? Il n'y a aucune réponse dans ce premier épisode. Donc pour moi, c'est un premier épisode qui ne sert à rien. Il ne place même pas un univers. Il a tout juste le don de placer Sera, ce qui était fait Sera, ou Sera, j'arrive pas à savoir son
Sera.
Nom. Sera. Ce qui aurait pu être fait en 3 pages. Donc honnêtement, mon intérêt est proche du néant pour cette série. Je ne sais même pas si je vais continuer. Cependant, les dessins sont très beaux, quoi. Alors Benny, si tu veux arriver à relever le niveau, peut-être.
Moi, j'ai encore un avis un peu différent des vôtres. J'ai pas trouvé ça si mauvais. J'ai pas trouvé ça excellent non plus. Je trouve que le problème, au fait, de cette série, c'est que pour le moment, alors j'ai pas été perdu pour autant. J'ai pas trouvé ça spécialement long non plus. Mais je trouve que le problème de cette série, c'est que il manque quand même quelque chose d'essentiel, à savoir qu'est-ce qu'on va nous raconter finalement. Quel est le fil conducteur? Parce que là, au fait, le problème, le cliffhanger, repose uniquement sur quelque chose en rapport avec Original Sin. Donc de toute façon, c'est pas un truc qui va rester sur la durée. C'est une intrigue par rapport à Original Sin. Bon, pas par rapport à Original Sin, d'ailleurs je me gourre peut-être, par rapport à Axis.
Non, Original Sin, t'avais raison.
Ah oui, d'accord. Bon, je sais plus. Enfin bref, toujours est-il que voilà, cette intrigue va pas forcément faire long feu et ensuite bah
c'était un des secrets cachés hein, que justement Jella
ouais.
était la sœur la sœur cachée justement de.
Oui, non mais je pensais au groupe qui arrive à la fin là, avec bah ce groupe
on va rien dire.
Voilà. On va rien dire. Donc qui est à la poursuite d'Angela. Donc là on est bien d'accord, c'est en rapport avec Axis, avec ce qui se passe actuellement dans Axis.
Pas sûr non plus.
Non, moi je vois aucun rapport avec Axis là.
Ah d'accord, le comportement qu'ils ont n'ont rien à voir, enfin n'est pas accentué par rapport à ce qui se passe dans Axis. Non mais excuse-moi, enfin je croyais, je pensais que c'était aussi
mais
en rapport avec
ça. Ça pourrait, venant d'un personnage, ce serait possible, mais les autres n'étant pas présents lors de l'inversion, je
vois
pas
bien sûr,
pourquoi.
Non mais venant du personnage central qui mène toute la bande quoi, en fait voilà c'est ça. Mais non mais toujours est-il que voilà, ça ne dit pas qu'est-ce que va raconter cette série, parce que finalement, on te montre un flashback sur Serra, ok, d'accord. Le flashback est pas mauvais, enfin moi j'ai trouvé ça plutôt sympa cette manière de voilà de payer les dettes. Enfin,
ça montre vraiment que le personnage est impitoyable quoi, et du coup ça la place tout de suite comme étant vraiment ultra badass.
Oui, oui, mais ensuite qu'est-ce que tu veux raconter ? Enfin, ok, le personnage est super badass.
Oui, oui, non mais je suis d'accord, il manque un fil rouge,
voilà,
il manque une.
Exactement.
Et si le fil rouge c'est juste ce qu'on a sur la dernière page, c'est mal fait parce que du coup c'est anticlimactique et on ne sait pas comment on en est arrivé là. Peut-être qu'en TP ça va passer parce que peut-être que dans le numéro 2 on aura une explication sur le pourquoi du comment elle se retrouve avec ce qu'elle a dans les mains. Mais
c'est peut-être ce qu'on a vu dans cette série que nous n'avons pas lu.
Bah oui, peut-être.
Ouais,
en fait il nous manque des clés, mais alors dans ce cas-là pour un numéro 1 je trouve que c'est pas bien, c'est pas bon.
Justement,
y a pas de récap.
On est si.
Bah, dans le récap, il y a pas de référence à la dernière page.
C'est que je m'en rappelle plus moi.
On est les premiers à dire il nous faut de la continuité, voilà. Si un comic n'est pas accessible, il faut se renseigner, mais pour un numéro 1, qu'un numéro 1 ne soit pas accessible, justement, c'est un comble. C'est un comble. Et c'est pas normal. Quitte à faire un enfin, si c'est un numéro 250 que tu comprennes pas tout, je peux, enfin, 257, admettons, que tu comprennes pas tout dedans, je peux arriver, je l'accepte tout à fait. Tout à fait. Qu'un numéro 1 ne soit pas compréhensible vraiment et n'ait pas une direction claire et définie, non. Non, clairement. Et puis, dernière chose, franchement, trop de séries asgardiennes tuent l'attrait pour cet univers. J'en ai ras le bol. Deux putains de Thor, une série Loki, une série Angela, ça va quoi. Il y a des personnages qui n'ont pas besoin d'avoir une série et Angela de toute façon n'avait pas besoin de rejoindre l'univers Marvel. Donc point.
Oh, franchement moi je trouve que son addition à l'univers Marvel est pas inintéressante.
Ça apporte rien.
Bah c'est l'idée, c'est d'en faire une sorte de Wonder Woman dans l'univers Marvel quoi, ils avaient pas d'équivalent.
Ça n'apporte rien si ce n'est de dire il y a un paradis, ce qu'on pouvait légèrement entrevoir vu qu'il y avait un enfer, mais le fait qu'il y en ait pas vraiment de montrer était pas une mauvaise chose.
Non, mais il y avait des choses à faire avec ce personnage à mon avis plus intéressant que d'en faire la sœur cachée de Thor, c'est surtout ça. Qui est un petit peu dommage finalement. Il y avait peut-être des choses à faire quand j'avais par exemple dit bah tiens pourquoi on dit pas que Nova s'est retrouvée dans le royaume d'Angela. Enfin je sais pas, quand Bendis a montré un petit peu le royaume d'Angela, on pouvait entrevoir des possibilités quoi. Et puis finalement bon bah non, c'est tout ça reste traité en surface. Bon, c'est la sœur cachée de Thor, OK, mais c'est pas forcément super passionnant quoi. Est-ce qu'on aurait suivi les aventures d'une sœur cachée de Thor si ça avait pas été Angela? Voilà, c'est surtout la question qu'il faut se poser. Moi, je pense qu'il y aurait pas eu beaucoup de lecteurs.
Moi franchement, à la lecture de ce premier épisode, quand j'ai vu les espèces de légendes démoniaques débarquer, je me suis dit ça y est, reparti sur ça. On va nous apporter des spawns façon Marvel quoi. J'ai vraiment cru que c'était
ouais,
ça.
J'ai même pas. Maintenant, je pense même plus.
Le design
à
des armures,
de Spawn,
etc. Ah non, mais moi j'ai vraiment revu Spawn, quoi. Et c'est peut-être ça. Ça m'a peut-être un peu sorti de la lecture aussi. Mais honnêtement, je trouve que ça se lit très très mal.
Bon, c'est vrai que c'était un peu brouillon. En même temps, il nous manque peut-être des clés. Donc je ne sais pas. Donc je peux pas vraiment prononcer là-dessus. J'ai pas trouvé ça extraordinaire. Ce qui manque surtout, c'est le un enjeu, quoi, cette série.
Ouais. Bah ouais. Donc moyen avec
notes,
deux. Moyen avec de très très beaux dessins, donc pour la partie graphique ça mérite l'achat, mais sinon c'est quand même assez décevant, donc un gros check-it on va dire.
Check-it moins pour ma part.
Ah
vraiment
bah moi,
juste
je vais
la partie graphique hein, qui la sauve du pass.
Je vais être justement super sympa, je ne sais pas pourquoi ce soir, mais je vais dire un petit bail, vraiment parce que c'est le premier numéro, pense que bon, bah, faut quand même.
Bah non, justement. N'encouragez pas Marvel à continuer de sortir des numéros 1 tout pourris, quoi.
Bah ouais, mais j'ai lu tellement des trucs pires que ça. Franchement, pour un numéro 1, c'est pas le pire que j'ai lu récemment. Non, moi, je vais dire un petit bail. J'ai pas détesté, hein, loin de là. J'ai juste trouvé ça pas excellent non plus, quoi. Donc, petit bail.
On va continuer avec de la bagarre, des muscles, des gros personnages, puisqu'il s'agit de la mini-série Thanos vs Hulk, une mini-série en 4 parties, écrite et dessinée par Jim Starlin, avec Andy Smith à l'ancrage. Eh bien, déjà, le ton va être donné tout de suite, c'est marqué sur la première page. Cela se passe avant le graphic novel Thanos d'Infinity Revelation, et ça se passe aussi avant que Bruce Banner se prenne une balle dans la tête, à l'époque où il travaillait pour le Shield, c'est-à-dire la période Mark Waid, avant la série reboot qu'on a eue il y a 9 mois. Quoi.
Ouais, enfin, c'est un passé récent. Quoi. Hulk.
Voilà, exactement. Je retrouvais plus le nom de la série. Donc c'est on est aussi avant Axis, on est avant Original Sin. Donc ça voilà, c'est cette histoire devait être dans la fameuse anthologie Savage Hulk. Ouais. Mais finalement ça se fait en sous forme de mini-série. Alors Thanos versus Hulk, bah que se passe-t-il dans cette mini-série? Bien comme son nom l'indique, hein, Thanos va se fighter
avec Spider-Man qui rencontre Mephisto.
Et pour quelle raison? Eh bien, tout simplement parce que Pip, le troll, a...
Ah bah tiens!
Mais oui, c'est pour ça que Bruno te disait, on en parlera tout à l'heure.
Ah, mais non, mais moi je pensais que c'était une blague... Ah oui, d'accord, on retrouve vraiment Pip le troll, putain, c'est extraordinaire.
Pas du tout, justement, vraiment que tu étais peut-être influencé quand tu as lu des news cette semaine.
Peut-être.
Bref, Pip le troll enlève Hulk pour le livrer à Blastar et les légions d'Annihilus qui veulent, enfin il enlève Bruce Banner, mais ils veulent Bruce Banner Hulk, ce qui lui permettra de récupérer une de ses conquêtes, une femme qu'on lui avait enlevée. Et voilà, c'était le but. Mais ne voulant pas laisser Bruce Banner dans l'ennui et ne sachant pas trop pourquoi Annihilus a besoin de Hulk, et imaginant que les ramifications puissent être assez problématiques, il décide d'aller prévenir quelqu'un capable de s'occuper de cette menace. Il pense
à Cunilingus la troll.
Il pense à un ancien membre des Infinity Watch. Eh bien, il s'agit de Thanos, évidemment. Alors, est-ce que Thanos va accepter d'aller sauver Hulk? Va-t-il essayer de le récupérer? Ben justement, c'est un peu tout l'enjeu de cette mini. Et puis, que veulent faire Blastar et Annihilus avec Hulk? Voilà, il y a énormément de choses. Hein. On voit aussi, quand Pip est dans ce bar, moi, ça m'a fait énormément rire. On voit plein de personnages des Guardians of the Galaxy passer. On voit des quasars, enfin, derrière les pages.
Le bar qui s'appelle le Starlin. Hein.
Le Starlin, oui, qui avait été amené par, justement, Dan Abnett et Andy Lanning dans Guardians of the Galaxy. Et il le réutilise. Ça m'a fait marrer, quoi.
La boucle est bouclée.
Mais voilà, c'est ça. On voit Drax passer. On voit pas mal de petits mondes. On voit des inhumains passer. Comme ça, il en case un petit peu par-ci, par-là, derrière les cases. Mais moi j'ai trouvé cette lecture agréable. Je sais pas ce que t'en as pensé, Bruno.
Ah oui, clairement. Après, je suis pas un grand connaisseur de toutes les aventures de Thanos. J'ai juste lu Le Gant de l'Infini. Effectivement, donc Infinity Watch, je ne connaissais pas.
J'ai ça, c'était la montre. Hein, de... enfin, voilà.
C'était une série dans les années 90 qui a duré une soixantaine de numéros à peu près.
Il y a aussi le t-shirt et les chaussures de l'infini.
C'est horrible d'essayer de donner des infos. Hein, c'est hyper dur. C'était une équipe gérée par Warlock. Et il y avait notamment Drax, il y avait Gamora, il y avait Pip, etc. Et chaque personne de cette équipe était responsable d'une des gènes de l'infini.
D'accord. Je trouve que en fait, il fait bien le job là pour replacer des éléments de continuité de façon assez sympathique. Justement, le personnage de Pip le Troll, on le voit au travers les yeux d'un agent du Shield qui analyse en fait sa fiche. Donc, ils nous le décrivent pour les lecteurs qui le connaissent pas trop. Et puis, je trouve qu'il y a pas mal d'humour. C'est vraiment un ton très années 80-90. C'est vraiment très bien dessiné.
C'est du Starlin, hein, de façon.
Ouais. Je trouve que Starlin, là, en plus, il fait un boulot au niveau dessin qui est vraiment très, très propre. Mmh. Finalement, on aurait pu s'attendre à avoir une bête baston de proportion épique. Mais finalement, il y a l'air d'y avoir un peu plus de fond que ce qu'on aurait pu penser avec les machinations d'Annihilus. Franchement, j'ai passé un bon moment.
Reste un truc que je trouve un petit peu cheapos, le cyberspace là.
Ah oui, ben ça, mais
Thanos,
ça, justement,
Thanos,
ça faisait
le pirate informatique, moi, ça
faisait très le cobaye, tu sais, dans les années 90,
ouais.
quoi.
Ouais, là, ça fait très 90. Thanos, le pirate, enfin, le pirate informatique, Thanos, le hacker, je sais pas, moi, ça passe moyen, ça.
Moi, ça m'a fait marrer, mais en même temps, c'est parce que, justement, il y avait ce petit côté un peu nostalgique, quoi, enfin, voilà, il y a vraiment un côté oldies dans cette lecture.
Non, mais c'est un clin d'œil au futur film Fantastic Four, bien sûr.
Avec
Dr. Doom Hacker.
De ma chef, ouais. Oh,
c'est ça. Mais voilà, bah, une bonne lecture, franchement, c'est pas mal.
Pareil. Bah, bye, hein, pour moi.
Un petit bye, ouais.
Ouais. Puis c'est une mini en 4.
Ouais.
Voilà, il y a des bonnes idées à voir s'il finira par, enfin, si ce sera bien conclu et s'il transformera l'essai ou si ce sera juste un bon début et une fin merdique, mais à voir dans les prochains mois. On va terminer avec toi, Benny. Tu vas nous parler encore de Hulk. Il s'agit de la série régulière Hulk numéro 9.
Ouais, alors par Kiri du Guiri. Oh putain.
Oulala. Oui,
oui, exactement. Guiri Dugan et
Mark Bagley au dessin.
Mark Bagley, oui, en plus tout simplement. Je le cherche alors que je le connais. Plus bon, bah voilà. C'est pas grave.
Mark Bagley au dessin, Andrew Hennessy est à l'ancrage.
Ouais, comme souvent d'ailleurs,
bah,
je crois.
Ouais, ouais.
Donc, déjà graphiquement, je peux le dire, hein, c'est quand même du bon Mark Bagley. Effectivement, c'est j'ai trouvé vraiment bon sur Hulk, sauf que Sakiti Pride et sa oh là là, j'ai oublié son nom en plus, c'est terrible ce soir.
Magic.
Ça va pas du tout.
Ouh là là, t'es
Magic,
pas du tout
voilà.
Dans ta review, toi.
Magic, à la tête de Gwen Stacy version Ultimate, quoi. Vraiment, il dessine les nanas à peu près toujours pareil. Et du coup, on a l'impression de voir Gwen Stacy avec une épée. Enfin, c'est assez troublant. Alors, grosse blague. Donc, c'est Hulk qui va voir Kitty. Et il passe la tête d'une porte et lui fait « Hello, Kitty ». Voilà.
Okay.
Rien que pour ça,
wow.
Il faut acheter ce numéro.
Ouais, il y a une autre blague aussi. Hein.
Oui, non, bien sûr. Mais la tête de Hulk vaut son pesant de cacahuètes aussi, sur cette page.
Il y a une autre blague sur la fin du numéro qui m'a fait lever un coin de bouche pour dire que j'ai fait un sourire, quoi, mais...
Ouais,
le Hulk is a jerk, voilà.
Ah oui.
Professeur Xavier is a jerk, enfin, c'était cette
ouais,
petite référence.
Ouais. Effectivement.
Bien placée de Guiri Dugan, quoi.
Ouais, ouais. Puisque maintenant, hein, faut plus l'appeler Hulk, faut l'appeler Doc Green, bien entendu, puisqu'il est devenu encore plus intelligent. Il y a du virus extrémiste là-dedans, décidément. Enfin, il y a une promo en ce moment, hein. D'ailleurs, vous le savez tous, vous pouvez la télécharger sur votre mobile, surtout si vous êtes dans la région de San Francisco. Toujours est-il que donc qu'est-ce qu'il en est, il va voir Kitty Pryde parce qu'il a besoin d'aide. Kitty Pryde peut être à même de lui retirer une espèce de tumeur qu'il a dans le cerveau. C'est un peu plus compliqué que ça, mais en gros c'est ça l'idée. Et puis, ça c'est pour la première partie d'histoire. Et puis la seconde, Bruce Banner donc se réveille puisque Hulk lui s'est endormi. Donc vous savez, quand il s'endort, eh bien Bruce Banner prend le pas. Et y a une espèce de confrontation par hologramme interposé entre Bruce Banner et sa créature, et on retrouve un petit peu dans l'ambiance ce qu'avait fait récemment Jason Aaron sur la série. Alors c'était Incredible Hulk, hein, ouais. le relaunch par Jason Aaron et puis Walt Sportaccio dans les premiers numéros. On retrouve un petit peu en fait ce type de scénario avec une grosse opposition entre les deux personnalités. Qui essaye de se manipuler mutuellement.
Bah, en fait, ce que tu ne sais pas, parce que tu n'as pas lu les anciens épisodes par Guiri Dugan, hein, tu as pris juste celui-ci, si j'ai bien compris.
Oui, oui, tout à fait.
C'est la première fois que ça arrive.
Oui, d'accord. Oui, non, mais justement, à plus forte raison, vraiment là, ça prend une direction.
C'est la direction que ça prend, mais ce n'était pas présent vraiment dans son arc. En fait, il est en train, je pense, préparer déjà son prochain arc, alors que son arc en cours n'est pas fini. Ce qui est une très bonne marque d'un très bon scénariste.
Ou d'un mec qui sait pas écrire. Non, je déconne. Mais oui, enfin globalement c'est très bon. Et puis l'apparition aussi d'une version de Hulk que l'on connaît bien si on est fan du personnage et qui est toujours sympathique.
Alors ça m'a scié. Franchement, ce cliffhanger m'a scié.
Ouais. Non, mais il y a moyen quoi de vraiment d'avoir de très bonnes choses dans les mois à venir sur cette série. Vraiment très très bonne lecture. D'ailleurs c'est peut-être même, je réfléchis, est-ce que c'est mon coup de cœur cette semaine ? Oh, allez, ouais, quand même, ouais, j'ai bien aimé Hulk, franchement, c'est une série vers laquelle j'ai envie de revenir maintenant régulièrement, et c'était pas gagné chez Marvel en ce moment. Donc non, ouais, très bonne lecture. Pour moi, c'est un. Bah, je peux donner la note.
Bah, je vais juste rajouter ouais. deux trois petits trucs. Moi, ce qui m'a fait déjà bien marrer au début de ce numéro, c'est quand même Doc Green qui arrive dans cette base des Uncanny X-Men que personne ne connaît. Hein, mais lui seul a réussi à la trouver parce qu'il est tellement intelligent.
Il est bien intelligent, voilà, c'est ça.
Il est tellement intelligent qu'il l'a trouvé, voilà, alors que bah, les autres savent pas où elle est. Voilà, il y a des petits trucs comme ça qui sont toujours bourrés d'humour. Voir Bruce Banner avec cette coupe de merde, ça m'a fait bien marrer aussi. Et non, vraiment bon épisode. Bon, on nous tease encore le mois prochain une confrontation avec le fameux Red Hulk qu'on nous teasait déjà pour ce numéro-là. Bon, j'espère que ça va être vraiment ça, parce que bah trop nous teaser quelque chose et pas nous le montrer, ça devient un peu chiant, mais bon.
Voilà. Ouais.
Malgré tout, j'espère que le Red Hulk ne va pas disparaître, mais actuellement, c'est un personnage qui n'a aucune utilité. Il n'y a plus de Thunderbolts. Il est bien c'est possible vrai. Que c'est un personnage qui disparaisse. Il a déjà supprimé tellement de personnages Radiation Gamma les derniers mois, il va plus en rester beaucoup. Hein.
Ouais. Mais en tout cas, voilà, non, très très bonne série, du très bon Hulk. Voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas été happé par un scénario, autour du personnage de Hulk.
Et je t'encourage à rattraper le run de Gary Dugan, hein, qui avait commencé
au
numéro 5.
Oui, ouais. Bah, je me le lirai sans doute en français, hein, puisque faut que je rattrape à peu près. Alors j'ai fait le calcul, j'ai 180 comics VO à lire du coup en français, puisque il y en a 18 sur chaque mensuel, enfin 18 numéros qui sont sortis sur chaque mensuel que j'ai en retard, et j'en ai à peu près 4 ou 5, je ne sais plus. Enfin voilà.
Non, mais enfin vraiment le run de Dugan est prenable dès son début. Il a fait un très bon jumping point dans son numéro 5, et tu peux attaquer le run sans avoir lu les 4 premiers de Mark Waid. Il y a pas de problème.
Bien
il y a
sûr,
une bonne page
sûr,
de récap
sûr.
Et il part sur tellement autre chose que du coup c'est super facile à appréhender.
Enfin de toute façon, ce sera lu quoi. Un jour ou l'autre, ce sera lu.
Donc bye pour moi. Hein.
Ouais, voilà. Et puis moi, ce sera donc un pass. Hein, vous l'avez compris, non mais bien sûr, c'est un. Je l'ai dit tout à l'heure. Hein, de toute façon, c'est mon coup de cœur de la semaine. Donc voilà, donc un bail évidemment.
On termine notre partie Marvel avec un numéro qu'on avait oublié tout à l'heure dans l'intro. Il s'agit de Axis Revelation numéro 3, Bruno.
Oh oui. Bah c'est parce que je l'avais déjà oublié que je l'avais lu parce que c'était pas terrible. Hein.
Oh.
J'ai lu le premier, j'ai arrêté. Donc.
Alors c'est. C'est il y a deux petites histoires. Il y a la première qui est écrite par Ray Fawkes avec des dessins de Pepe Larraz et Rodrigo Zayas, qui va s'intéresser à Kitty Pryde, qui à la suite en fait d'Axis, maintenant se retrouve être une sorte de méchante, et en fait elle va utiliser ses pouvoirs pour aller cambrioler une banque, et donc on va la voir face à la police. On va se rendre compte qu'elle avait un petit plan derrière la tête qui était autre chose que juste dérober des bijoux et des billets, mais finalement c'est quand même assez pointless et assez inintéressant. Et du coup vraiment on oublie très très rapidement cette lecture. La deuxième partie,
c'est pointless parce que c'est pas un point one.
Non, oui, c'est vraiment parce que c'est nul, quoi. Et la suite,
comme ma blague.
C'est une histoire sur Sandman, qui est écrite par Frank Barbière avec des dessins de Victor Santos. Là, c'est un petit peu mieux, où on a justement le personnage de Sandman qui va se rendre compte que à cause d'inversion, il y a pas mal de vilains qui deviennent gentils. Et comme lui, il a toujours un peu flirté entre le bien et le mal, il décide justement de mettre ses... De passer vraiment le cap et de devenir lui aussi un gentil. Et pour cela, en fait, il va essayer de coincer un vilain qui essayait de faire un crime à Riker, à la prison Riker.
Et à cause d'inversion, il fait des, il agit maintenant parmi les gens qui sont réveillés, au fait.
C'est-à-dire.
Sandman.
Non, mais je plaisante.
D'accord.
C'est le mauvais Sandman.
Et en fait, c'est plutôt malin, puisqu'en fait le personnage, il a beau faire tout pour faire le bien, il se reprend tout dans la gueule et tout le monde considère que c'est vraiment un vilain, et donc il est super dégoûté. Cette histoire est sympathique, les dessins j'ai bien aimé, on voit que Barbière il a quand même un peu plus de talent que Ray Fawkes pour l'écriture de ce numéro, mais ça reste aussi vraiment pas dans les annales du bon comics, donc pour moi c'est vraiment un pass ce numéro 2 de Axis Revolution. Voilà, ces petites séries tie-in aux events, c'est vraiment pas top top en ce moment.
Ah, le problème, c'est que Revelations, c'est ni plus ni moins qu'un A plus X qui dit. Oui, j'ai dit quoi ?
Revelation.
Ah oui, pardon. Revolution, c'est un plus X qui ne dit pas son nom.
Ouais.
Et A plus X, c'était déjà pas bon. Et,
voilà, Original Sins, qui était un peu le même modèle aussi, c'était pas terrible non plus. Donc, les petites anthologies comme ça, tie-in aux events, c'est pas terrible pour le moment. Donc, un pass, hein.
Oui, bah oui. Tu nous l'aurais vendu en disant c'est un méga bail, Bruno. Je te coupais au montage.
Ouais, c'est bien.
Allez, notre partie TPB. Avant de passer à notre partie indé, les TPB sortis chez Marvel cette semaine, eh bien, nous avons un gros bouquin, un gros omnibus, $125. Peut-être une idée de cadeau de Noël à faire ou à se faire faire, puisqu'il s'agit de X-Men Inferno Prologue. Et oui, les épisodes pré-Inferno. On avait déjà des omnibus de Inferno qui existaient. Et bien voilà, si vous voulez savoir ce qui s'est passé un petit peu avant Inferno, eh bien c'est disponible en omnibus. Alors à l'intérieur, vous retrouverez X-Factor 27 à 32 ainsi que l'annual numéro 3. Vous retrouverez aussi Uncanny X-Men 228 à 238, New Mutants 62 à 70 ainsi que le quatrième annual, le annual de X-Men, enfin qui est en fait Duncan X-Men numéro 12, et du matériel de Marvel Legends Annual numéro 4 et Marvel Fanfare numéro 40. Voilà, donc vraiment plein d'épisodes de la vieille époque. Vous avez notamment du Claremont, vous avez du Silvestri au dessin, vous avez, enfin, vous en avez plein, quoi. Du Louis Simonson au scénario pour les X-Factor. Vraiment du bon, pré-Inferno, voilà, pour ceux qui voudraient découvrir cette époque.
830 pages.
Un bon gros bouquin comme on les aime. Autre gros bouquin sorti cette semaine, la complète de Young Avengers par Kieron Gillen et Jamie McKelvey. C'est un mini omnibus en fait, parce qu'il s'agit, il est pas si gros que ça, et ça contient les 15 épisodes de la série ainsi que le petit prologue qu'il y avait dans le Marvel Now Point One. C'est au prix de $50.
Oui, bonne idée.
Bonne idée, hein, de faire une série courte. J'imagine que c'est ce que Marvel va sûrement faire de plus en plus avec ses séries très courtes et relaunchées au bout de 12-15 épisodes. Ouais, des espèces de complètes comme ça, quoi.
Ouais, des séries d'un épisode même parfois ils vont faire à force. Tellement non, mais... ça va être très court, tellement c'est mauvais et puis voilà.
Donc, non mais enfin
un relaunch par mois, hein, je pense bientôt.
Je pense qu'il faut s'attendre dans les prochains mois, bon, peut-être pas pour les séries complètement mineures, mais je vois bien des espèces de mini omnibus comme ça pour des séries comme She-Hulk, comme All New Ghost Rider,
ouais, voilà Superior des séries Fose.
Superior Foes, ou remarque il y a 17 épisodes, c'est pas si gros
ouais,
que ça.
Ouais, mais tu vois, ils vont faire aussi un omnibus pour Hawkeye par exemple qui est en 20 épisodes.
Enfin... Ouais, j'imagine bien le futur du TPB comme ça chez Marvel en tout cas. Enfin, on termine nos TP Marvel de la semaine avec Invaders classique. C'est du TPB, Complete Collection aussi. Ça vaut $40 et c'est du vieux Invaders, hein, puisqu'il s'agit de la série de 1975, enfin, en tout cas qui avait démarré en 75. Les épisodes 23 à 41. Vous avez aussi le Invaders qui signait la fin de la série, hein, d'ailleurs de cette époque. Vous avez ensuite la mini-série Invaders de 93 au complet, hein, les 4 épisodes, le Giant Size Invaders 2 et le What If numéro 4. Bien sûr, c'est principalement du Roy Thomas au scénario, vous avez aussi du Gil Kane au dessin. Voilà, c'est du vieux si vous avez envie de découvrir les Invaders, ancienne version, avant que James Robinson n'y touche.
Ouais.
Sur ce, nous allons passer à notre partie indé, et c'est merde, c'est moi qui démarre parce que j'étais pas prêt. Donc on va passer à toi Bruno, et à toi Benny, et puis je ferai la review après. Il s'agit de Birthright numéro 3, Benny.
Ah, c'était même pas une blague en plus.
Non,
Joshua Williamson.
Je suis pas prêt du tout, là.
Oh, quelle grosse blague. Joshua Williamson est au scénario, et Andrei Bresson... est au dessin, hein, Bresson. Adriano Lucas est à la colorisation. Et tiens, on va même nommer le lettreur. Allez, Pat Brosso. Voilà, qui est au lettrage.
Éminent lettreur, hein, qui lettre énormément de comics, hein.
D'accord. Bah, je te crois sur parole. C'est honte à moi, je ne fais jamais tellement attention au lettrage. Donc voilà. Mais je veux bien te croire. Au moins, nous l'aurons cité, ce monsieur. On reprend, hein, cette intrigue de ce jeune homme qui avait disparu, qui revient parmi sa famille et dans notre monde, quoi, totalement changé en une espèce d'énorme Conan le Barbare qui revient donc d'un monde peuplé de trolls et de personnages fantastiques. Et évidemment,
Et surtout le méga twist.
Et surtout le méga twist. Mais on va pas revenir sur le méga twist parce que finalement, on n'en parle plus trop dans cette histoire. Puisque là, il est assez sympathique. Il suit vraiment sa famille qui fuit au fait les forces de police hein, qui sont après eux, le FBI, etc. Donc on a un petit peu un scénario à l'IT où ils sont poursuivis par les humains hein, qui veulent récupérer donc cet enfant un peu particulier. Par exemple, il revient dans sa chambre hein, dans laquelle il a passé sa prime jeunesse avec son frère. Et il se remémore des souvenirs du passé, il explique un petit peu aussi comment c'était dans son monde. Et puis on voit justement dans ce fameux monde magique certaines choses qu'il s'y passe, qu'il s'y déroule. On fait la connaissance d'autres personnages qui vont avoir un rôle clé dans l'intrigue. Donc il se passe quand même pas mal de choses. Et puis on se quitte surtout sur un cliffhanger avec l'apparition en fait d'un personnage qui va jouer aussi un rôle très important dans cette intrigue. Donc toujours très bonne série, vraiment sans temps mort, hein, ça s'enchaîne. Le rythme est vraiment soutenu. On n'est qu'au troisième numéro et pourtant on a déjà vu énormément de choses. On a l'impression qu'il s'est passé une dizaine d'épisodes quasiment. J'exagère à peine. Donc c'est vraiment très prenant. C'est très bon, c'est très rythmé. Je suis le seul à l'avoir lu. Peut-être ce numéro 3 cette semaine.
Je n'ai pas eu le temps de le lire non plus cette semaine.
Donc, écoutez, je vais pas vous faire plus attendre. Pour moi, ce sera un bon bail. C'est vraiment un très bon titre indé, un titre Skybound, hein, d'ailleurs. Ouais.
C'est une série sur laquelle tu t'étais pas exprimé, Bruno, parce que c'est vrai que c'était une semaine où tu n'avais pas pu être là quand on en avait parlé du numéro 1. Je crois pas que tu avais parlé du numéro 2. Tu l'as lu donc et tu as apprécié.
Ah oui, non, mais j'adore cette série. J'ai juste pas eu le temps de lire le numéro 3, effectivement, mais c'est énorme. Enfin, pour l'instant, d'ailleurs, moi je suis plutôt fan de tout ce que fait Joshua Williamson actuellement. Pour moi, c'est vraiment une des stars montantes des scénaristes. Ce qu'il fait en indé est énorme sur Ghosted, sur Nightbiter et. Et là, sur Birthright, c'est pareil, c'est très très bon.
Nightbiter qui sortait aussi cette semaine, hein, d'ailleurs.
Ouais. Graphiquement, c'est très bon. Il y a du talent et c'est un très très bon titre.
Très bien. Allez, on continue avec du Vertigo. Nous avions White Cheese chez Image, qui est le renouveau des sorcières. Et bien voici Wolf Moon par Cullen Bunn, qui est le renouveau du loup-garou.
Voilà. Ah bah je suis désolé, j'en ai parlé du renouveau du loup-garou avec cet épisode là que j'avais chroniqué, ce numéro 1.
Intersect, vous comprenez.
Oui, qui s'appelait, j'ai même oublié le titre de la Intersect. Série et qui l'avait écrit. Ah oui, voilà,
de,
c'est
Ray Fox.
De Intersect de Ray Fox, effectivement, qui était complètement fucked up. Mais pour le coup, qui devait effectivement renouveler, dépoussiérer le mythe du loup-garou.
Non, c'est Wolf Moon hein, qui devait dépoussiérer le mythe du loup-garou, Intersect.
Intersect, on ne sait pas trop, en fait.
Wolf Moon était la série qu'on avait annoncée il y a de ça quelques mois maintenant dans le Comics Weekly, dans le Weekly News, pardon.
Ouais, bon, Intersect, c'est un loup-garou tout poussiéreux, alors, tant pis.
À savoir que Wolf Moon est une mini-série en 6 épisodes. Donc, pareil, encore une fois, ça engage à pas trop, hein. On sait quand ça commence et surtout on sait quand ça s'arrête. À moins que le succès soit énorme pour cette série et qu'ils décident de continuer. Mais au vu de ce premier numéro, je ne pense pas que ce soit possible de continuer trop longtemps. Ou alors il faudra sûrement changer beaucoup les plans. Donc, je l'ai dit, Cullen Bunn est au scénario. Au dessin, nous avons Jeremy Owen, qui signe des très bons dessins, je trouve. Ouais, bien glauque, bien sombre.
Ah, c'est sanglant. Hein.
Et c'est hyper crade. Au moins, on peut pas dire que voilà, c'est du loup-garou façon Twilight. Là, c'est loup-garou violent qui déchire. Lilou Fridge est à la colorisation, évidemment, ce qui rend les pages somptueuses. Alors, le principe de ce loup-garou façon Wolf Moon, c'est tout simplement que est-ce que je vais le dire en fait? Est-ce que c'est peut-être pas une des révélations?
Je serais d'accord avec toi de peut-être le cacher, parce que moi j'ai trouvé que c'était vraiment la bonne surprise du comics, puisque j'avais pas trop lu les... Enfin, je sais pas si c'était révélé d'ailleurs dans les sollicitations, mais c'est ça qui justement est très original. Disons que c'est pas vraiment les loups-garous comme on les connaît. Oui, voilà.
Oubliez ce que vous connaissez sur les loups-garous, hormis le côté l'argent, qui apparemment marche toujours, la contagion ne se fait pas de la même façon.
La contamination, c'est très différent, et c'est ça que j'ai trouvé vraiment très intéressant. Donc, vaut mieux peut-être le découvrir en lisant le comics.
Donc on va suivre un personnage qui est tenté par ces loups-garous. D'ailleurs, on voit qu'il emporte les marques sur la gueule dès le début. Hein. On a très bien compris quand. On a tout de suite compris le truc. Hein. On n'est pas trop trop bête. On a déjà vu des films de loups-garous et lu des histoires de loups-garous pas mal de fois. Et en fait, il chasse, le loup-garou. Presque à en détruire son couple, hein, puisque il s'en fout un peu de sa femme et il est plus obsédé par le fait de retrouver cette espèce de tueur sanguinaire qui est vraiment très sanguinaire, hein, cette espèce de loup.
Plutôt, je sais pas que, si c'est sa femme en fait ou si c'est juste une amie.
Non, j'ai l'impression que ça accompagne, hein, quand même. Enfin, moi, c'est vraiment l'impression que ça me donnait.
Non, parce qu'à vers la fin, on voit des images. Ou alors peut-être que c'est sa nouvelle compagne, effectivement.
Oui, c'est ça. Ils ont été rapprochés tous les deux. C'est expliqué dans l'histoire. Ils ont été rapprochés tous les deux parce qu'ils ont subi des drames similaires concernant le garou. C'est pour ça qu'il est aussi franc avec elle et qu'elle sait ce qu'il chasse.
Oui, tout à fait.
Et donc il va le chasser. Il y a quand même une scène que j'ai trouvée très conne.
Ouais.
La scène de la splash page.
Alors la splash page que je me souvienne.
En bas, qui est en plein milieu du comics, hein, qui est somptueuse d'ailleurs. Ce loup humanoïde sur fond de lune avec le flingue vu FPS, voilà. Le mec tire pas, quoi.
Oui, mais alors, il tire, mais il tire pas bien.
Ouais, enfin, le mec, ça fait moins 5 ou 6 cases qu'il a dans son viseur et le mec, il arrive à rater.
Il est vraiment très inefficace.
Comme dirait Eric, il a raté un éléphant dans un boudoir, quoi.
C'est vraiment très très étonnant. D'ailleurs, ça fait partie un peu du plot de l'histoire. Hein. C'est un peu un loser quand même, de rien. Il se retrouve face à la bête et il réagit très très mal.
Mais j'avoue que ça m'a quand même fait chier. Ça m'a fait un peu sortir. Je me suis dit, putain, merde, le mec, tu le rates quand même.
Juste comme dirait Eric, le Eric des musclés.
Non, Eric de Eric et Ramsey.
Ah d'accord.
J'aurais peut-être dû dire Judor, effectivement.
Ouais.
Enfin, quoique non, je dors pas, j'irai dormir après.
Oh la vache!
Oh putain, oh la vache!
Oh, jus d'or ou jus d'argent aussi, hein?
Oui.
Jus d'orange est là.
Bah, tout le monde parle des Golden Shower, donc c'est peut-être ça le jus d'or.
Oh. Là, c'est enchaînement de mauvaises vannes.
C'est sûr que tout le monde en parle. Vannes, hein. S'il y a un truc dont tout le monde parle en ce moment, c'est ça, quoi.
C'est enchaînement de mauvais goût, c'est le cas de le dire, je crois.
Mais ce n'est pas le cas de ce comics que moi j'ai trouvé très réussi.
Pareil, très bonne surprise. Les trucs qui partent en disant on va révolutionner le mythe, ça me fait toujours un peu peur. Bon, est-ce que ça changera pour moi le mythe du loup-garou ? Non, clairement non. Mais c'est une bonne vision, en tout cas, une bonne réinterprétation du mythe.
Vision intéressante.
Ouais, voilà.
Avec, mine de rien, on n'en parle pas, mais il y a quand même un autre fil rouge intéressant avec peut-être des gens qui enquêtent sur justement comment fonctionnent les loups-garous. Et voilà, on va peut-être pas suivre uniquement le personnage dont je vous parle au début.
Bien sûr, mais j'ai quand même j'ai hâte de comprendre un peu mieux comment ça marche cette histoire, parce que ça me paraît un peu bizarre. Mais justement, je suis intrigué, j'irai vraiment voir le 2 avec envie et avec assez d'impatience quand même. Ouais. Donc gros bail, hein, pour moi.
Oui, bah gros bail pour moi aussi, et je trouve que Vertigo, avec ses petites mini-séries, il a réussi des bons petits coups récemment avec Wolf Moon, The Names et Bodies. C'est plutôt sympa.
Et Blood Moon.
Et beaucoup, enfin très très bon Cullen Bunn, hein, bien raconté l'histoire, bon rythme, non, c'est vraiment très plaisant. On continue avec du Avatar, puisque nous sommes dans le bon goût, hein, le truc avec les tripes, etc. Donc Bruno, tu vas nous parler de Dark Gods numéro 2.
Ouais, c'est écrit par Justin Jordan avec des dessins de German Eramusp et Michael Di Pascal. J'avais bien aimé le premier numéro qui établissait une sorte de mythologie où en fait on avait les dieux sombres qui s'opposaient à un groupe qui s'appelle The Storm, qui est un groupe de gentils qui depuis la nuit des temps justement les combats. Et ça reprend tout de suite après la fin du premier, avec toujours cet informaticien qui en a appris un petit peu trop justement sur les Dark Gods, qui se retrouve poursuivi par des monstres et qui in extremis s'était fait sauver par une jeune femme qui avait l'air assez badass. Un numéro que j'ai trouvé peut-être un peu moins réussi que le premier, parce que finalement c'est quand même assez lent, ça avance pas très très vite, mais qui développe un petit peu plus la mythologie et qui nous présente quelques nouveaux personnages, dont un personnage qui m'a fait penser un peu au personnage de Barry dans Resident Evil, un gros baraqué avec un gros flingue.
Barry, où est Barry? He's in the dining room.
Oh, this is not Chris's blood. Et donc un comics sympa. C'est assez assez cool. Il y a pas mal de violence, de scènes très choc. Ça fait très Thing, The Thing de John Carpenter, avec des monstres, avec des appendices et de la chair un petit peu partout en putréfaction.
J'aime bien Bruno parce qu'il est super sympa comme mec et il dit que c'est cool parce qu'il y a beaucoup de violence.
Ouais,
voilà. Y a un mec qui s'est fait agresser dans la rue là, c'était cool, tout cas, il y avait une bonne ambiance et tout, il s'est fait charcuter.
Graphiquement en plus, je trouve que c'est plutôt
explosé.
Pas mal. Mais voilà, une petite baisse de rythme quand même dans ce deuxième numéro, ça m'empêchera pas d'aller voir la suite. Pour moi, c'est un bon gros check-it pour les fans de comics un petit peu trash, gore, badine d'Avatar quoi. J'ai eu plus envie de lire ça que le Crossed 100, donc je crois que personne l'a lu cette semaine,
non.
D'Alan Moore, que j'avais commencé à lire mais que j'ai trouvé très très pompeux. Voilà, mais je reviendrai dessus, je vous parlerai sans doute du numéro 2.
Eh bien, nous allons rester dans le trash, le glauque, etc. Je sais pas, c'est peut-être une marque de fabrique de l'indé pour nous cette semaine en tout cas, puisque Benny, tu vas nous parler de Men of Wrath numéro 3.
Ouais, c'est vrai que l'indé qu'on aime, c'est quand même l'indé très trash
très
glauque. Ouais, j'arrive même plus à parler. Donc Men of Wrath numéro 3 par Jason Aaron et
Ron Garney au dessin. Oh
Ron
là,
Garney.
Le mec, aucun crédit ce soir.
Oui, c'est terrible. À chaque fois, je loupe la page de crédit. Je sais pas comment je peux faire, mais j'y arrive. On est avec ce personnage principal qui est face à son père. Et son père qui veut le buter, tout simplement. Donc, au fait, là, c'est vraiment la confrontation entre le père et le fils. Et le père ne va pas faire de cadeau à son fils. Ils interviennent notamment... ils arrivent en plein milieu d'une... c'est la messe, hein, tout simplement. J'ai envie de dire la messe est dite. Voilà.
Facile.
Voilà. ça part grave en live, hein, cette histoire. C'est toujours pas mal. Cela dit, une petite baisse de régime parce que finalement, c'est juste une confrontation entre les deux, mais il y a pas de, je sais pas, il manque un petit quelque chose. Il y avait des flashbacks assez sympathiques, assez intrigants dans les précédents numéros. Là, disons que ça manque un petit peu de finesse. Voilà, ça manque un petit peu de psychologie. Là, c'est quand même très très bourrin. On a l'impression de lire un épisode de Punisher bête et méchant, j'ai envie de dire. Hein. Vraiment, où tout le monde se tire dessus, tout le monde se déteste, tout le monde se hait. Mais au fait, bon, on en
la
oublie,
vie selon Jason Aaron, quoi.
Oui, voilà, c'est ça. Mais on en oublie un petit peu les véritables raisons du mal. Au fait, dans les deux premiers numéros, on avait l'impression qu'on allait t'expliquer un petit peu comment on en est arrivé là. Et là, je me demande, arrivé au troisième, si finalement on va vraiment t'expliquer pourquoi tant de haine, quoi. Est-ce qu'il y a un orangina rouge planqué quelque part? Enfin voilà, on sait pas.
Ce qui serait top, c'est qu'à la fin de la cinquième, parce que tout le monde se sentirait volé, mais
si, je crois qu'il y a que 4 numéros, donc c'est pour ça que...
Non, il y en a 5, je crois.
Ah bon, bah, bisquera, je sais plus.
Et qui donne pas la réponse, quoi. Que juste les gens, ils se butent parce que voilà, ils aiment se tuer.
Je sais pas, mais autant dans les deux premiers, tu vois, il y avait des bribes d'explications, on va dire, et là, je me demande si finalement ça va être développé, parce que c'est vrai que c'est une série courte, donc je sais pas s'il reste un ou deux numéros, mais en tout cas, il reste peu de numéros. D'accord, ok, bah il en reste deux. Est-ce qu'il va pouvoir vraiment développer ça? Parce que là, il y a quasiment pas de développement, hein. C'est vraiment un épisode de bourrin.
C'est pas mal, ce serait bien que ça parte sur des petites mini-séries quoi, qui gardent Men of Wrath, mais si jamais ça continue, qu'on ait une saison 2 ou un truc comme ça quoi.
Ou le faire à travers le temps, un peu comme American Vampire, suivre la génération suivante, puis la génération suivante, etc.
Enfin voilà, un petit peu déçu par cet épisode. Bon, ce sera un check-in de plus.
Ouais, peut-être le ventre mou parce que nous sommes au milieu de l'arc, hein, finalement.
Ouais, peut-être.
Enfin bon. Nous allons passer au TP de la semaine concernant la partie indé. Alors, pas mal de TP cette semaine en indé. Nous avons notamment chez Dark Horse la série The Mighty. Alors, une série à côté de laquelle je suis complètement passé. J'avoue,
moi-même.
Mais...
Ouais.
Mais alors, Chris Samney et Peter Tomasi, je crois que je vais vite me rattraper en TP. Ça vaut $20. Une mini-série dans laquelle il n'existe qu'un seul super-héros qui s'appelle Alpha One et un flic, un capitaine de police qui s'appelle Gabriel Cole. Commence à comprendre un petit peu le plan derrière ce fameux Alpha One qui essaye d'influencer la population avec son fameux Utopia. Voilà, c'est les 12 épisodes de la série, parce que c'est une série en 12 épisodes, et qui sont reliés pour ces $20. Ouais, et cher. Vraiment, l'équipe m'interpelle, quoi.
Ouais, Peter Tomasi, Chris Samney. Ça a l'air pas mal du tout.
Il y a aussi pour les covers, on a aussi du Ryan Sook notamment, il y a du Kiss Champagne aussi, enfin voilà, il y a du monde hein, dans cette mini, côté de laquelle j'étais vraiment passé, donc pense vraiment me rattraper en TP. Voilà. Et Mighty va continuer le mois prochain dans Dark Horse Presents.
Donc voilà, okay.
C'est un bon moyen peut-être de se mettre à jour. Continuons avec chez IDW, Eric Schanauer, qui est toujours sur le monde de Oz. Alors vous vous rappelez peut-être de ces séries Marvel sur le monde de Oz et l'adaptation par Eric Schanauer et son nom échappe, mon Dieu, Scotty Young. Merci. Eh bien, Eric Schanauer n'était pas étranger au monde d'Oz. Il avait déjà écrit pas mal de graphic novels concernant Oz. C'est collecté dans Adventures in Oz. Et ça date, c'est ancien, ça date de 86 hein, pour les premiers. IDW republie tout ça au prix de $35. Donc si vous avez envie de voir ce que pouvait faire Eric Schanauer avant d'être avec Scotty Young et avant d'adapter un peu plus fidèlement peut-être les histoires de Frank Elbaum, eh bien jetez-vous dessus. C'est pas excessif hein, pour du vieux matériel qui est quasi introuvable aujourd'hui.
Ouais.
Toujours chez IDW, du Lariyama. Eh oui, ça va parler guerre, puisqu'il s'agit de G.I. Joe Complete Collection Hardcover Volume 6. Pour ceux qui veulent relire les G.I. Joe, les comics G.I. Joe, qui étaient parus notamment chez Marvel dans les années 80, dans l'ordre, eh bien voilà, c'est une, dans l'ordre, surtout l'ordre de lecture, puisque certaines séries se passaient avant d'autres, etc. Donc dans un ordre de lecture correct. Eh bien voilà, la Complete Collection de G.I. Joe Volume 6 est sortie au prix de $50. Et je n'ai pas ce qu'il y a à l'intérieur. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une introduction de Mark W. Bellomo, des notes concernant certains épisodes, aussi des profils de véhicules, etc. Voilà, pour les fans de la franchise, jetez-vous dessus. On continue avec du Matt Fraction et du Chip Zdarsky. Alors, c'est un espèce de graphic novel qui s'appelle Just the Tips.
Ouais, c'est des conseils sur la sexualité, en fait.
Ça, d'accord. Ah, je me demandais ce que c'était en fait.
En fait, ça a été, c'est issu des lettres qu'il y avait à la fin de Sex Criminals,
nice.
Qui sont devenues de plus en plus importantes au fur et à mesure des numéros. Et en fait, ils s'éclatent vachement à essayer de répondre aux questions des lecteurs.
Ah, les Doc Eddie Fool version moderne.
Exactement. Et c'est vrai que c'est assez drôle à parcourir dans Sex Criminals. Je me marre bien en lisant les lettres. Et là, ils ont carrément fait une compilation des meilleures lettres, plus des lettres inédites et quelques petits dessins inédits. Mais c'est un petit format, c'est rigolo.
Ah, en tout cas, une très bonne idée, un bon petit cadeau de Noël peut-être, hein, un petit complément à la collection de Sex Criminals, même si certaines lettres sont déjà publiées, effectivement. C'est pas très cher en plus, hein, c'est au prix de $13. Donc voilà, un bon petit bouquin, quoi. Et il le conseille pour âge 16 et plus. J'ai des doutes. Chez Image, toujours une série que tu avais commencé, Bono. Je ne sais pas si tu l'as terminée, une mini-série qui s'appelait Red City.
Ah oui, j'avais commencé, oui, j'avais trouvé ça un peu naze, donc non, j'avais pas continué.
En tout cas, si vous voulez voir ce que ça donne, eh bien, la version complète est sortie au prix de $15. Et ça inclut aussi du bonus avec une nouvelle petite histoire sur Moriarty, Endgame, par Daniel Corey et Anthony Desidu, voilà, qui sont les auteurs aussi de Red City, évidemment. Chez Image, il y a aussi des gros bouquins qui sortent hein, pour cette fin de saison, pour cette période de vacances et cette période de cadeaux, puisque Morning Glory's Compendium est arrivé.
Wow.
Le premier TP avec les 38 premiers épisodes de la série. C'est au prix de $60 en plus. Franchement, c'est pas cher.
Ça, c'est pas mal, ouais, effectivement.
Si vous aimez Morning Glory's, eh bien, oui. Jetez-vous dessus. Et si vous ne connaissez pas, jetez-vous dessus. Nick Spencer et Joe Eisma, notamment au scénario et au dessin, avec l'apport énorme de Rodin Esquero. Nous avons dans les versions collector, les versions deluxe, etc., Revival en version deluxe qui sort le volume 2 avec les épisodes 12 à 23, ainsi que le crossover Chew Revival, republié. C'est au prix de $35. Ouais, très bonne série édition. De Tim Seeley, ouais, et très belle édition aussi, ouais, très bonne série de Tim Seeley et Mike Norton. Nous passons maintenant à Oni avec Ciudad, un graphic novel de Andy Parks qui est sorti cette semaine au prix de $20 avec Andy Parks et au scénario aussi nous avons Joe et Anthony Russo qui sont les réalisateurs de Captain America The Winter Soldier et Fernando Leon Gonzalez au dessin. Toujours chez Oni, Wasteland, le 10e TP est sorti. On approche de la fin de cette série de Anthony Johnston. C'est au prix de $17. C'est, je crois, l'avant-dernier TP. J'en suis sûr, c'est l'avant-dernier TP de cette série. Enfin, des petits projets qui sont sortis chez Titan, notamment, et qui sortent aussi chez Rebellion aux États-Unis, parce qu'il y a deux boîtes. Il y a cette mini-série de Ian Endington qui s'appelle Brass Sun, qui est sortie en hardcover cette semaine, et qui va aux $25. Et enfin, alors un projet que je ne connaissais pas, mais je l'ai ajouté, parce que enfin voilà, j'étais passé complètement à côté, Zenith. Ouais. Phase 2, c'est du Grant Morrison. Alors je sais qu'il y a beaucoup de fans de Grant Morrison, je ne connaissais pas du tout ce truc là.
C'est un truc purement anglais avec Steve Yeowell au dessin. C'est hyper attendu en fait, il y avait eu un Kickstarter pour republier ça et ça partait à des prix pas possibles les éditions qui étaient sorties à l'époque et là c'est ressorti à des prix plus corrects.
$25, c'est pas cher. Ouais.
Et c'est le deuxième volume, le premier est sorti le mois dernier. Donc voilà, pour les fans de Morrison, allez-y.
Ouais, complètement passé à côté. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais je sais qu'il y a tellement de fans de Morrison. Pour moi, ça méritait d'être signalé. C'est publié chez Mirror Comics. Voilà pour la partie indé. Nous allons terminer avec notre partie DC. Seulement deux reviews chez DC, mais quelle review ! Attention, puisque Bruno, tu vas nous parler de Secret Six, le Revival.
Attention. Oui, tout à fait. Et c'est écrit par Gail Simone avec Ken Lashley au dessin.
En voiture Simone.
Voilà, en voiture Simone pour...
Lâche le Simone.
Parce pour relancer justement Secret Six, une série sur laquelle elle avait quand même pas mal à poser sa patte.
Bon, les deux même. Hein.
Ouais, les deux pattes même, parce que c'est quand même plus simple pour écrire sur l'ordinateur. sur la couverture, il y a marqué What is the secret? Puisqu'en fait, tout va tourner autour d'un fameux secret, qui va réunir 6 personnes, dans une sorte de jeu un petit peu qui m'a fait penser à Saw.
Oui.
C'est assez original.
Entre Saw et Cube.
Ouais, c'est ce que j'allais dire, sans avoir lu, tu vois, le truc.
Je m'attendais pas à ça, en fait, comme début de série, mais finalement, j'ai trouvé ça assez sympa.
Côté Avengers Arena?
Non, là, non. C'est vraiment plus Saw.
En tout cas, pas dans ce premier épisode. Hein.
D'accord. Ouais. Et c'est quand même vu surtout du côté de Catman, puisque ça commence avec justement Catman qui est au New Mexique et qui...
I'm the Catman!
le New Mexique!
Le New Mexique, c'est encore mieux que le Nouveau Mexique.
Et... le franglais, qui c'est
le New Mexique.
Et en fait... Cécile reboot l'État, ouais, un jour.
Ouais.
Donc, New Pepito.
On a le personnage de Catman qui est tranquillement en train de savourer des petits cocktails dans un bar... avec des amis à lui et qui se fait attaquer par des agents du gouvernement qui finalement se révèle être peut-être tout autre chose et on a droit comme ça à une très bonne scène de baston qui nous montre un Catman assez classieux au niveau de ses bastons quoi, il se défend très très bien. Sachant que j'ai trouvé que le ton quand même du comic c'était parfois un petit peu crade et rigolo quand même. Il y a quand même le personnage de Catman qui se propose de faire pipi sur la gueule d'un des personnages pour justement montrer que voilà que c'est sa propriété et que qui marque son territoire comme ça.
C'est pour ça, ça a dû me toucher inconsciemment. C'est pour ça que je parlais de Golden Shower.
Ouais, ça parle de Golden Shower et juste après, on a un personnage qui justement se prend une Golden Shower vraiment. Donc je trouvais que c'était assez assez osé de la part de DC. Mais il y a un ton un peu coquin aussi.
Mais on ne parle que de ça en ce moment.
Ouais, le personnage de Catman a l'air d'être un bisexuel assez porté sur la chose qui va rencontrer justement dans cette fameuse cellule où il se retrouve avec cinq autres personnages assez mystérieux, avec une femme qui lui présente son entrejambe en entrée en matière. Et voilà, mais
une vision qui apparemment n'a pas l'air de lui faire plaisir. Ouais, j'ose même pas imaginer l'état du truc.
Ça a l'air assez défraîchi puisque
il y a peut-être une mâchoire comme dans le film.
Ça a l'air assez défraîchi puisqu'il s'agit du personnage du ventriloquiste qu'on a pu voir dans Bad Girl justement, je crois.
D'accord. Non mais c'est le mannequin, le pantin qui lui montre ou la personne
non,
qui tient
le verre. Non, c'est la ventriloquiste.
La meuf qui est un petit peu zombiesque, on va dire. Voilà, donc les autres personnages.
Personnellement, moi, ça me met l'eau à la bouche.
Les autres personnages, y en a qui sont plus ou moins connus. Alors, il y en avait certains, j'en avais jamais entendu parler. Parmi ceux-là, il y a quand même Strix, qui était un des personnages de Birds of Prey, qui est des membres de la cour des hiboux. On a le personnage donc de, j'oublie son nom, le mec là, le sorte de détective privé.
Détective Chimp ? Non, pas du tout.
Non, c'est pas du tout.
Je suis en train de retrouver son nom, justement.
C'est un gars avec une super force, Damon Wells, il s'appelle.
Oui, voilà, un espèce de Mr. Hyde.
Ouais, exactement.
Pas vraiment déguisé.
Et on a une nana qui s'appelle Porcelaine, qui, en fait, tout ce qu'elle touche, elle peut le transformer, justement, en porcelaine.
Allez chercher loin, son pseudo.
Et enfin, on a un personnage de magicienne qui est...
Black Alice.
Oui, voilà, c'est Black Alice. Le retour de Black Alice, tout à fait. Qui a les pouvoirs un petit peu comme Zatanna, puisqu'il utilise le même genre de magie. La magie où il faut parler à l'envers. Voilà.
Sauf qu'elle fait ouh.
Tous ces personnages ont été rassemblés par une organisation secrète qui veut absolument découvrir quel est le fameux secret qui peut-être les relie tous. Et ils vont devoir révéler ce secret.
Ça à faire, hein.
Sinon, il va y avoir des répercussions. Et
sinon, il y a Benjamin Castaldi qui va se rappeler.
Oh, putain, mais.
Des six personnages.
Mais tu vas te calmer.
Ouais, c'est clair. Tu peux pas le muter de temps en temps. Et,
pas ici, non.
Ah merde. Et il y a un des personnages qui va faire les frais, justement, de. Si jamais il ne révèle pas quel est ce secret. Donc, j'ai trouvé que c'était plutôt rythmé.
Tu n'es pas si loin du côté de Castaldi, puisque c'est vous choisirez qui va mourir. Quoi.
C'est ça, vous tapez un, si vous voulez que ce
pour
soit Catman.
Vous tapez enfin, un,
vous
pour Porcelaine.
Les personnages
vous
choisiront
deux.
Eux-mêmes qui devront mourir, qui devra mourir parmi eux.
Alors graphiquement, je trouvais qu'il y avait de très jolies planches et d'autres en fin de comics qui étaient plutôt ratées. On sent qu'il a rushé un peu les dernières pages. Après, il y en a d'autres qui étaient vraiment très belles. C'est pas mal. Bonne entrée en matière pour une sorte de Suicide Squad revisité avec, pareil, des vilains un petit peu qui sont au centre de l'histoire. C'est pas mal. C'est pas renversant, mais c'est pas mal. Je sais pas ce que t'en as pensé.
Alors, moi, il y a deux numéros 1 cette semaine que j'ai lu, Angela et Secret Six. Les deux
l'un, c'est de la merde, l'autre, c'est de la pisse.
les deux sont assez nébuleux puisque on n'a pas encore... On comprend rien, je veux dire... on n'a vraiment aucune idée, enfin, ou très peu d'idées de ce qui se passe. On découvre les personnages, etc. Et pourtant, je trouve que Secret Six est 100 fois meilleur que Angela, parce que même si on ne comprend rien, on est mis du point de vue des personnages.
Ouais. Et il y a de très bons dialogues.
Très bons dialogues. Bon, Gail Simone est connue pour ses bons dialogues, surtout quand il s'agit de personnages assez hard comme ça. Je me rappelais pas que Catman avait un côté claustrophobe.
Ouais, oui, j'ai pas trop ressenti ce côté claustrophobe, mais...
Il arrête pas de le répéter, qu'il veut pas être enfermé, qu'il peut pas, que ça va mal se passer s'il commence à...
Moi, je l'avais compris différemment, moi j'avais compris qu'en fait, il avait quelque chose d'important à faire, en fait, mais effectivement, peut-être...
Ah, c'est peut-être ça, ouais, parce qu'il arrête pas de dire, il y a des gens qui vont mourir, c'est peut-être que oui, effectivement, il y a peut-être autre chose. Moi, je l'ai compris comme claustrophobie, mais c'est vrai que peut y avoir les deux interprétations, justement. Mais vraiment, ce que j'ai aimé, c'est, oui, là, je suis perdu un peu comme Angela. Je sais pas exactement où ça va. Puis, alors, ce côté de quel est le secret, alors qu'ils savent même pas de quoi ils parlent. Mais, les personnages savent même pas de ce qu'on leur demande. Quel secret, c'est un peu la question qu'on leur pose. Et c'est un peu la question qu'ils se posent. Mais de quel secret tu parles? Et on est tellement mis avec les personnages que on est comme eux, en fait. Contrairement à Angela, où apparemment les personnages savent ce qui se passe, mais nous pas. Et c'est ça que j'ai apprécié, c'est pour ça que ça rend cette lecture intéressante. Parce que on est dans le même état d'esprit que les personnages, on comprend rien, mais les personnages non plus.
Ouais. Non, je suis d'accord avec toi, c'est beaucoup plus fluide hein, la lecture qu'Angela. Et j'ai été plus accroché, pareil, sur Secret X quand même que sur Angela.
Il y a quand même une ou deux petites scènes choc qui mine de rien, sur le moment quand je les ai lues, m'ont pas paru super choquantes, mais en y repensant, sont assez assez bien amenées. La scène des masques.
Ouais.
Elle a quand même tout un pouvoir, quoi. Les gens les ont démasqués vraiment.
Ouais, tout à fait, ouais.
Ah, je sais pas où ça va aller, mais vraiment, j'irai voir le numéro 2, quoi. Autant Angela, le numéro 2, si je le lis pas, bah, ça manquera pas. Là, j'ai quand même envie d'aller voir la suite, au moins essayer de comprendre un peu ce qui se passe et voir comment ces personnages vont s'en sortir, parce que la position dans laquelle ils sont est quand même bien inconfortable, enfermée, mais on ne vous révélera pas dans quoi, justement, à vous d'aller le découvrir dans le comic. Mais c'est marrant et à la fois, c'est un peu glauque.
Ouais, comme le reste, la dernière page, je l'ai trouvée assez classe, hein.
Ouais, mais effectivement, comme tu l'as dit, certaines inconsistances parfois sur certaines cases, c'est vraiment dommage parce que il y a des planches vraiment superbes et il y en a d'autres où tu sens que c'est fait à la va-vite. Quoi.
Ah ouais, il y a des visages vraiment dégueulasses sur 2-3 pages.
Des fois, ça se demandait, bah justement, je parlais de cette page où il y a les masques, la case juste en dessous où il y a les masques, où ils s'aperçoivent, les gueules sont ratées, quoi.
C'est un autre dessinateur presque.
Oui, exactement, c'est l'impression que ça donne.
Ouais.
Et ça, c'est vraiment le point négatif du comic, c'est que autant il y a un super effort. En même temps, oui, voilà, il y a deux encreurs. Ken Lashley s'encre lui-même, mais il y a aussi Drew Guerassi à l'ancrage. Alors, est-ce que ça viendrait du second encreur? Est-ce que ça vient de Ken Lashley lui-même? Est-ce que justement, c'est quand il s'ancre que les pages sont crades et quand Drew Guerassi l'ancre que les pages sont belles? Ça, on ne sait pas, mais en tout cas, c'est vrai que c'est dommage parce que il y a vraiment une patte graphique super, super bien léchée et il y a des moments, c'est raté, quoi.
Ouais. C'est...
Et la colorisation est bonne aussi. La colorisation de Jason Wright a vraiment des tons intéressants et une façon de coloriser intéressante.
Ouais, ça fait pas digital.
Ça fait pas digital, il y a un petit côté un peu pastel, je sais pas. Bonne surprise en tout cas ce numéro. Hein. Alors que j'attendais absolument rien, je l'ai lu. J'ai lu en me disant, c'est un numéro 1, on va essayer d'en parler quand même. Quoi.
Donc,
petit bail, ouais.
Petit bail aussi pour moi.
Ouais. Et Benny, tu vas conclure les reviews de la semaine avec du Batman Eternal.
Avec Scott Snyder et James Tynion IV au scénario, James Tynion IV au script plus particulièrement de cette histoire d'ailleurs. Ray Fawkes, Kyle Higgins et Tim Seeley en artiste consultant. Et puis Fernando Blanco s'occupe des dessins pour ce numéro.
Tu as donc bien retrouvé la page des crédits cette fois.
Oui. J'étais en train de m'endormir devant, mais je suis là.
Il s'agit du numéro 35 hein, que je n'avais pas précisé.
C'est vrai, je l'ai pas précisé non plus. Marcello Maiolo est à la colorisation.
Est à la mayonnaise.
Et oui, est à la mayonnaise Maiolo.
Putain, les mecs ils font des vannes sur les noms quoi. C'est vraiment
qu'on
a touché le fond.
La mayonnaise, tout ça, c'est Maiolo quoi. Steve Wands est au lettrage. Tiens, on va aussi le nommer. Donc voilà. Donc, au fait, c'est un épisode où Jason Bard déploie encore des efforts, des trésors d'ingéniosité, pardon, pour emmerder Batman, pour détruire Batman, détruire Bruce Wayne. Justement, plus ça avance, plus c'est jubilatoire. Ça devient vraiment un ennemi très très intéressant. Et alors, on va en apprendre un petit peu plus sur les raisons. Mais pourquoi est-il si méchant, en fait, ce Jason Bard? Eh bien, voilà, on commence à avoir des pistes dans cet épisode.
Il chante mal.
Voilà, exactement. Oh, et il va finir bâillonné et pendu à la tour Wayne.
Pendant
à la fin
le banquet.
De... Ouais. Pendant le banquet, ouais. C'est ça, de
la
Bat
Family
par...
qui se répétera d'un joli dîner de Thanksgiving.
Il n'y a pas beaucoup à manger sur Jason Bard. Il y en a plus sur Bullock, par exemple. Mais toujours est-il que... un truc aussi très intéressant, alors un personnage qui à mon avis va être un petit peu mis sur la touche et va avoir un bonnet d'âne au sortir de Batman Eternal, s'il est toujours là, c'est Lucius Fox, puisque Lucius Fox, eh ben, tout simplement, il est parti, enfin, c'est pas qu'il est passé du côté obscur, mais c'est que Jason Bard, clairement, enfin, Lucius Fox...
Ça va aller
les
vannes racistes ce soir, c'est bon?
Lucius Fox le dit lui-même à Bruce Wayne, Voilà, il roule à présent pour Jason Bard et voilà. Donc il lui dit clairement, écoutez Bruce, vous êtes bien sympa, mais voilà, maintenant c'est lui qui a le, c'est lui qui est puissant et c'est pour lui que je roule. Donc d'ailleurs, c'est le cas de le dire puisqu'il manipule la Batmobile à distance dans cet épisode, Jason Bard et Lucius Fox.
Comme dans Batman, voilà,
Lucius. Lucius, oui exactement, ça m'a fait penser à ça, mais Lucius Fox, c'est quand même un petit enculé, hein, quand même. Alors dis donc, c'est pas bien ça. Bah j'espère
mais du
que...
Mais quelle sera la réaction de Bruce, maintenant que Lucius est passé de l'autre côté, par rapport à son fils qui est Batwing?
Je sais pas, mais à mon avis...
confiance à Batwing, un des membres de la Bat-Famille, mine de rien.
À mon avis, le père va se faire virer au sortir de cette saga. Ça va être bon, bah Lucius, vous êtes viré, voilà. Ou alors Lucius Fox va y passer en ayant des regrets, en essayant d'empêcher Jason Bard, d'agir.
Moins que tel son prénom, il lui soit obligé de faire une gâterie à Bruce Wayne. Ce sera donc Lucius.
Ouais, je sais pas.
Ouh. Oh oui, j'ai honte.
Voilà. Toujours est-il que très bon épisode de Batman Eternal. Là, ça monte en intensité, en tension de semaine en semaine ces dernières semaines. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, un bon bail. Et j'ai quand même hâte de relire un petit peu le tout en relié, hein, en TPB, parce que voilà, je trouve que c'est une histoire qui mérite qu'on la relise en back-to-back, en faire du binge reading sur Batman Eternal dans quelques mois.
Oui.
Très bien.
À noter qu'il y a eu la semaine dernière, enfin on l'avait parlé, il y avait le premier TP de Batman Eternal qui est sorti avec les 20,
un pavé, hein,
21
puisque...
premiers numéros. Donc,
ouais.
C'est le moment.
Ça fait un omnibus, quoi, quasiment. Hein.
Presque.
Ouais, un bon petit omnibus. 21 numéros, à savoir comment ils vont publier la fin, parce que s'il y a vraiment que 52 épisodes...
Ouais, ils en ont prévu un peu plus, je crois.
Ils ont même prévu une saison 2, hein, presque.
Oui, déjà,
en
plus,
ça fait partie des rumeurs.
Ouais, enfin, je sais pas trop, mais il y a des chances que ce soit ça, quoi.
Mais justement, on parlait de TPB, et c'est de la bonne transition pour la fin de cette émission. On parlait du TPB de Batman Eternal, et bien parlons de l'autre série hebdo qui sort actuellement... Enfin, une des autres séries hebdo, parce qu'il y en a trois actuellement chez DC, Future's End, celle qui est bien avancée, qui sort son premier TP au prix de $40 et qui comprend les numéros 0 à 17 de la série. Brian Azzarello, notamment, mais on a aussi du Dan Jurgens, du... Ah, aidez-moi, s'il vous plaît. Du Patrick Hirscher au dessin, oui. Mais au scénario, je pensais, il y a Azzarello, Lemire aussi, et il y a Giffen, je crois.
Yes.
Voilà, les quatre sont donnés. $40 pour ces 18 épisodes, 18 premiers épisodes de cette série hebdo. Continuons avec Batman The Jirokuwata Batmanga. Premier TP sur 3, puisque c'est une série qui sort actuellement en digital, version restaurée pour la première fois en anglais du manga Batman qui avait été sorti dans les années 60 par Jirokuwata. Le premier TP est sorti en version papier, c'est au prix de $15. Il y aura donc 3 TP pour la série complète, puisque la série faisait 53 chapitres.
D'accord. J'ai jamais regardé
objet,
ce truc.
Mais c'est moi non plus, mais c'est un objet qui, de par son côté décalé, peut-être être intéressant, justement, puisque Batman et Robin vont affronter le fameux Lord Deathman. Attention. Continuons avec du très très vieux Marshall Law en semi-omnibus, en tout cas en grosse version complète, puisque c'est du Pat Mills, hein, évidemment, et du Kevin O'Neill au dessin. Ça reprend la mini-série principale de Marshall Law, les 6 premiers épisodes, hein, qui avait lancé le personnage, et les autres mini-séries et one-shot comme Marshall Law Fear and Loathing, Marshall Law Takes Manhattan, Marshall Law Kingdom of the Blind, ainsi que Marshall Law The Hateful Dead, Super Babylon et Secret Tribunal. Voilà. Tout ça pour $30 si vous avez envie de découvrir ce personnage qu'on connaît pas forcément très très bien en France, que publication dans les comics USA à l'époque, enfin dans la collection... Si Benny, si ça te dit quelque chose, je crois que c'était publié chez Comics USA, Marshall.
Bah ouais, c'est ça, bah, sans doute, ouais. Mmh. Il me semble, je vois les couvertures, effectivement, et il y a dû en avoir dans cette collection, ouais, tout à fait.
Autre chose qui ressort, qui peut être un bon cadeau de Noël, si vous ne connaissez pas, si vous ne l'avez pas, Pride of Baghdad en version deluxe. Ça ressort du Brian Kevogan et Nico Henrichon au dessin. C'est au prix de $25. Nous avons aussi Nightwing, mais Nightwing l'ancien, pas le Nightwing New 52. Une compilation des premiers épisodes de Nightwing avec la mini-série du début des années 90 qui a ensuite lancé la série régulière. Vous avez donc les 4 épisodes de la mini plus les 8 premiers épisodes de la série régulière Nightwing. C'était du Dennis O'Neill à l'époque. On avait aussi du Scott McDaniel au dessin et du Greg Land. Tout ça pour $20.
Il n'y avait pas encore Chuck Dixon dessus du coup ?
Non, pas au départ. C'était Dennis O'Neill au départ.
D'accord.
Enfin, je le mentionne puisque je ne sais pas trop quel sera l'avenir de cette série en France, Red Lanterns, le 5e TP Atrocities est sorti, qui contient le Red Lantern 28, enfin le fameux Green Lantern Red Lantern 28 hein, qui était un seul et même épisode, le Red Lantern Alone 1 ainsi que le numéro 27, 29 à 34. Ainsi que le Supergirl 31. Vraiment beaucoup d'épisodes hein, dans ce TP pour $20. Je sais pas trop quel sera l'avenir de cette série en France.
Si, il va y avoir des hors-séries Green Lantern avec justement toute la partie Supergirl, mais je sais pas. C'est vrai que c'est assez bizarre, les publications. On verra.
Voilà, en tout cas...
Je suis étonné que tu n'aies pas parlé du TP2 de The Movement qui sortait cette semaine.
Ah bah non, je l'ai raté. Là, franchement, c'est véritablement un oubli, je l'ai raté, mais c'est très bien que tu le mentionnes, Bruno.
Une série qui a marqué tout décès. Voilà. La série de Gail Simone avec ses personnages un petit peu façon V pour Vendetta qui essaye de se battre contre le système. Voilà. Il y a le deuxième TP qui termine la série qui vient de sortir.
Faut mettre l'emphase sur le mot essaye.
Oui, c'était pas génial. Là, c'était vraiment pas top.
Le système, quoi.
Donc il y a les épisodes 7 à 12 à l'intérieur, j'imagine.
C'est ça, exactement.
C'est à quel prix, Bruno ?
Une quinzaine d'euros, je crois.
D'accord.
$300.
Non, mais c'est bien pour ceux qui veulent justement cette série assez courte, hein, 12 épisodes.
Ça restera inédit en France. Hein. Ça, j'en suis quasiment sûr.
À moins qu'Urban se décide, dans un geste de bonté, de publier ça en un tome.
Sortir mais ça, franchement, je sais pas ce serait... de distribuer un omnibus à chaque Français. Gratuitement.
Ça va être le prochain Absolute de l'année prochaine.
Voilà ce que l'on pouvait dire en tout cas sur les sorties de la semaine.
Et bah c'était intéressant,
n'hésitez
disons
pas à faire des achats et pourquoi pas au LCF hein, chez les revendeurs qui seront là ce week-end. Pour ceux qui écouteraient cette émission qui se rendraient au LCF, puisque je rappelle que le LCF au moment où cette émission sera disponible, bah c'est maintenant, voilà.
Voilà, exactement.
Ouais. Pour parodier un éminent homme politique français actuel, enfin éminent en tout cas par la présence
politique.
My time
is now. Voilà,
c'est ça. C'est... Putain, tu l'imagines un homme politique celui-ci ?
Ouais. Mon Dieu, holy non, shit. Vaut mieux pas. Enfin bon, on a bien eu Tcharsi, hein, ouais. Un homme politique, donc.
Oui, si vous êtes au LCF, peut-être que vous pourrez me croiser, moi et Benny.
Ouais, parce que nous, on aime deux choses à Comic City. On aime la continuité, Tristan. On l'a dit tout à l'heure, et le Marwal. Donc. On veut absolument plein de maroilles. Amenez-nous du maroilles au LCF.
Ça va.
Foutez-le sur le stand. Foutez-le sur le stand de voilà le stand que de.
Moi enfin, j'allais dire le stand de maroilles.
Non mais moi non plus. Hein, je raffole pas non plus de maroilles. c'est juste que voilà c'est de. J'allais dire cette saison même pas mais c'est de la région. Donc voilà.
Voilà.
Bah c'est tout. J'ai pété l'ambiance.
Bien.
C'est à mon avis, si vous en ramenez sur le, je
on
trouverai jamais
sur
le stand, le stand tout
pas.
Simplement. Voilà.
Ça va péter l'ambiance, ouais.
On
aura péter l'ambiance avis, effective en tout cas.
On aura plus beaucoup de monde, ouais, effectivement.
Bref, comme d'habitude, vous connaissez la marche à suivre. Hein, vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur Twitter avec @ComicCity. Et puis retrouver tous les anciens épisodes. Je vais éviter de parler trop vite, sinon je bouffe les mots. Tous les anciens épisodes sur le site ou sur iTunes, évidemment. iTunes, vous pouvez nous laisser des commentaires. C'est fortement apprécié, des commentaires. Et 5 étoiles, évidemment, on ne prendra pas moins. Voilà.
Ouais.
C'est comme ça. Et puis, si d'aventure vous aviez envie de nous faire partager vos questions ou vos réflexions, n'hésitez pas. Vous avez les commentaires sur le site ou par mail, mails qui seront lus, sauf demande express de votre part, dans l'émission Le Weekly News, tous les mercredis en direct sur Synops Live, à l'adresse podcast@comiccity.fr. Merci Bruno, merci Benny. Oui. Je vous souhaite un très bon festival auquel je ne peux pas
me rendre. Ça se passe bien pour le moment. Écoute, voilà. Beaucoup de fans, beaucoup de femmes nues qui se jettent à nos pieds en nous disant encore des podcasts.
Putain, le mec qui fantasme maintenant.
Putain, si vous arrive ça, je vais vraiment être dégoûté, ma race. Enfin bref, vous prendrez des photos.
Oui, on pensera à toi.
Ouais, on pensera à toi, être très très fort là. Et on pense à toi. Hein.
Et donc pour vous qui n'étiez pas là et qui, je pense, n'aurait pas le temps d'écouter le Weekly News d'ici le LCF, je réitère la suggestion que je proposais à Flo notamment et aux auditeurs. Hein, si vous voyez un cosplay de Cyclope ce week-end, n'hésitez pas à le moucher, puisque j'aimerais bien avoir une photo de quelqu'un qui mouche le Cyclope.
D'accord. Voilà.
Sur ce, on vous souhaite une très bonne semaine. Portez-vous bien, lisez plein de comics et amusez-vous bien, surtout au LCF.
Et mouchez-vous le Cyclope.
Ouais,
on veut pas le savoir. Allez, si vous le faites vous-même, ne nous envoyez pas de photos par contre.
Non. Ciao.
Vous allez le faire sur notre stand.